auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec vous, Pasteur Serge Alexandre, dans l'émission évangélique « La voix de celui qui crie dans le désert ». La voix de celui qui crie dans le désert, une émission hebdomadaire préparée pour vous avec des vérités bibliques et des recherches théologiques. Nous voulons vous faire découvrir la valeur, la beauté et l'excellence de l'Évangile. Avec vous, Sœur Marceline Alexandre, dans une courte prière.
Gloire au Père,
gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, à toi seul la gloire et l'honneur. Nous te remercions pour tous les privilèges que tu nous as accordés. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nos iniquités. Voici, Seigneur, l'émission, la voix de celui qui crie dans le désert, de bénir le pasteur Serge, ainsi que tous nos auditeurs, que ton esprit puisse illuminer leur âme et qu'ils soient édifiés. Nous bénissons, glorifions, exaltons ton nom, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour. Nous voici de retour dans notre émission évangélique, la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert, votre émission préférée, votre émission hebdomadaire. N'oubliez pas que nous sommes en train d'étudier avec vous les sept je suis. Nous avons tout d'abord, je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie, Jean 6, verset 35. Je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7 et 9. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7 à 9. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, verset 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Je suis le vrai cep, Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, Jean 15, verset 1. Nous avons vu la semaine dernière, je suis le vrai cep. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. Nous allons faire un rappel sur ce que nous avons vu la semaine dernière « Je suis le vrai cep », Jean 15, verset 1, pour vous mettre à point sur notre sujet d'aujourd'hui. Dans notre sujet la semaine dernière, « Je suis le vrai cep », nous avons vu tout d'abord les différentes parties d'un arbre. Nous avons vu qu'un arbre est un être vivant qui se nourrit, respire, grandit, se reproduit et meurt. Nous avons vu qu'un arbre est composé de racines, d'un tronc, de branches et de feuilles. Les racines sont la partie cachée du végétal, servant à fixer l'arbre dans le sol, à lui assurer son équilibre et à le nourrir. Plus un arbre est grand et gros, plus ses racines doivent être vigoureuses et longues. L'arbre aspire l'eau et sa nourriture par ses racines. Nous avons vu que l'écorce est le manteau de l'arbre et le protège contre le vent, la pluie, le gel. Ce manteau est lisse ou rugueux. Il est noir ou gris ou blanc. Tous les arbres ont deux couches d'écorce, une extérieure, l'autre intérieure. C'est par l'écorce intérieure que les matières nutritives passent au tronc et aux branches. Nous avons vu que les ramures sont des branches et rameaux d'un arbre. Nous avons vu que la cime est la partie la plus haute de l'arbre. Le feuillage est l'ensemble des feuilles. Les branches fortes ramifications du tronc d'un arbre, le tronc, le corps de l'arbre, le fût, la partie de l'arbre entre les premières branches et le sol, dans lequel les ramilles sont des divisions de rameaux, etc. Nous avons vu aussi l'histoire de la vigne et du vin, qui est une histoire ancienne qui se confond avec l'histoire de l'homme. Et que la vigne et le vin ont représenté un élément important dans les sociétés occidentales, intimement associé à leur économie ainsi qu'à leur culture. Le vin est synonyme de fête, d'ivresse, de convivialité. Nous avons vu aussi que la vigne sauvage est une liane qui pousse sous les arbres, des lisières, et jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Elle est apparue avec l'humanité et elle est toujours représentée en Europe, surtout en forêt rhénane inondée. Les premières traces de cèpes de vigne cultivées ont été relevées sur les flancs du Caucase, dans l'actuelle Géorgie, et datant d'il y a plus de 7000 ans. Nous avons vu aussi comme la vigne est une liane qui pousse sous les arbres. Nous avons vu que qu'on se serve du cèpe pour maintenir la vigne afin qu'il puisse avoir une poussée verticale. Et le cèpe, c'est ce qui maintient ces lianes et c'est ce qui maintient la vigne pendant 30 ans à 40 ans, comme la durée de vie d'une vigne. Nous avons vu que l'agriculteur doit faire beaucoup de choses, beaucoup de travail, avant que la vigne puisse avoir du succès. C'est un travail qui demande beaucoup d'attention. Et nous allons lire pour vous les principaux travaux de l'agriculteur pour permettre que sa vigne puisse produire, puisse avoir du succès et qu'il y ait de bon vin. Nous avons la première chose à faire, c'est la plantation d'une vigne, qui est une étape incisive dans la vie du vigneron. On part du principe qu'un vigneron ne plante qu'une fois la même vigne. Les cèpes restent en règle généralement 25 ans à 40 ans en place. Il est donc important de se faire quelques réflexions avant la plantation. Quel cépage convient à cette parcelle? Lequel, pas du tout? Quel vin peut avoir du succès? Quel système de taille devrait-on adopter? De quelle mécanisation devrait-on disposer? Les réponses demandent quelques connaissances agronomiques et de l'expérience. C'est l'un des travaux de l'agriculteur. Il y a aussi l'ébourgeonnage. Comme toutes les plantes, la vigne cherche à produire un maximum de fruits pour garantir la survie de l'espèce. Si on laisse pousser tous les rameaux, il en résulte une énorme quantité de feuilles et de fruits. La qualité du raisin serait fortement diminuée et la vigne s'épuiserait beaucoup trop vite. Pour établir un certain équilibre, on enlève les jeunes pousses sur Mireille. Le bourgeonnage se fait avec le même état d'esprit que la taille, c'est-à-dire en anticipant le développement du cep. Il y a aussi le palissage. Ayant des surfaces disponibles limitées pour la culture de la vigne, on utilise comme cette dernière est une liane qui préfère croître le long du sol ou en montant dans les arbres. On a inventé différents systèmes de soutien, comme la grande majorité des vignes est conduite sur des flots de fer parallèles. Le travail de palissage consiste à enfler les rameaux en croissance entre ces fils de fer pour assurer une croissance verticale. C'est un travail à répéter durant toute la période de la végétation. Nous avons vu le feuillage, qui consiste à enlever certaines feuilles et pousses dans la zone des grappes, parce que l'avancement et la croissance de la zone des grappes devient plus touffue. les participations et l'humidité ambiante favorisent un microclimat propice aux champignons, telle la pourriture grise. On imagine bien que des spores de pourriture n'ont pas un effet positif dans le vin, sans parler de la perte de récolte engendrée. Il y a les vendanges, ce sont sans doute les plus connus et les plus attendus des travaux de la vigne. C'est la dernière étape de l'année viticole. On prend bien soin de choisir le moment idéal pour récolter le raisin en fonction de sa maturité. Il y a aussi le mise en bouteillage que nous avons vu après plusieurs mois passés en cave, après toutes les étapes de la vinification. Le vin de parrainage est prêt à prendre le chemin de la cave. La dernière étape consiste à le mettre en bouteille et à étiqueter ses bouteilles. Mais nous avons vu que quand Christ Jésus parlait, et dit dans Jean 15, verset 1 à continuer, quand il disait « Je suis le vrai cep » et que tous les serments qui restent attachés à lui, si les serments ne restent pas attachés au cep, ils ne peuvent pas porter de bons fruits. Et son père, le vigneron, les coupera et les jettera au feu. C'est-à-dire que nous, les chrétiens qui viennent d'une vie sauvage, on nous a greffé sur la vigne, sur le vrai cep. Si nous restons attachés à Jésus-Christ, nous porterons de bons fruits. Mais si nous ne restons pas attachés et si nous ne portons pas de bons fruits, nous serons coupés et jetés au feu. Et qu'Israël a été la vraie vigne. Israël a été la vraie vigne et Jésus est le vrai cep. Donc, nous devons rester attachés à la vigne, nous devons rester attachés au cep afin que nous puissions porter de bons fruits. Maintenant, nous allons voir avec vous « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Nous allons lire pour vous le verset. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons fait des recherches sur le mot « vérité ». Le mot « vérité » vient du latin « veritas », qui signifie « vérité ». Et cela est dérivé de « verus », qui signifie « vrai ». Dieu est la vérité et la vie. Le mot verus, vrai, ou le mot vérité, c'est le caractère de quelque chose réel qui n'est pas un mensonge, ni une aberration, ni une invention ou quelque chose fictive ou fausse. C'est la réalité imminente d'un caractère ou d'une personne qui existe dans toute sa plénitude. Dans Jean 17, verset 3, nous allons lire pour vous. Ce verset est comme une sorte de parallèle avec le sujet que nous sommes en train d'étudier. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notez bien que ce verset mentionne toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. S'il y a un vrai Dieu, il y a aussi des faux dieux. Et c'est ce que nous allons vous expliquer, c'est ce que nous allons vous montrer. Nous allons lire avec vous dans Genèse 6, verset 1 à 4. Et ce qui pourra élucider ce dont nous avons mentionné. Genèse 6, verset 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le mot fils de Dieu noté en Genèse 6, versets 1 à 4, le mot fils de Dieu fait rappel aux anges déchus. Les anges, ces anges déchus qui n'ont pas respecté leur rang et qui sont venus accouplés avec les filles des hommes. Ces anges, on les appelle fils de Dieu, ce sont les faux dieux. Ils sont intelligents, ils sont très intelligents, ils ont leur puissance, ils ont une puissance, une intelligence qui nous dépasse, une puissance qui dépasse celle des hommes. Ils ont leur sagesse, une sagesse, je dirais, diabolique. Leur existence a été avant la création. Ils ont été créés, ils ont été formés avant la création. Ces anges déchus, appelés fils de Dieu, ils copient tout ce que Dieu a fait. Ils forment un royaume. Ils forment un royaume avec la tête comme une trinité. Dans Apocalypse 20, nous pouvons lire le diable, la bête et le faux prophète. Ces anges déchus, appelés fils de Dieu, sont venus dans le monde après qu'ils se sont rebellés dans le ciel et qu'ils ont été chassés par Michaël. Et ils sont descendus dans le monde cosmique, dans la création visible. Nous allons lire pour vous dans Apocalypse 12, verset 7, à continuer. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ces anges déchus, appelés fils de Dieu, forment une armée innombrable, une armée incommensurable. Car nous avons vu dans le Nouveau Testament, Jésus, qui était en train de chasser une légion de démons dans l'armée romaine. Dans l'armée romaine, une légion est composée de près de 6000 soldats. Cela veut dire que ces anges, ils sont vraiment nombreux et on ne peut les compter. Il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les principautés, il y a les chérubins. Et on nous dit que le malin ou le diable a entraîné un tiers de l'armée céleste, un tiers des anges de l'armée céleste. Nous allons lire pour vous dans Apocalypse 12, verset 4. Apocalypse 12, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le diable a été chassé avec un tiers des anges. Il a été chassé du ciel avec un tiers des anges, une armée innombrable. Le chef de cette armée, nous allons mentionner, nous en avons parlé, c'est Lucifer. Lucifer qui signifie porteur de lumière. Et nous allons lire avec vous dans Ézéchiel 28, verset 13, quel était le rang de cet ange, de ce chérubin qui a été placé sur la montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Ézéchiel 28, verset 13 à continuer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané les sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Cet ange déchu, Lucifer, comme il est appelé Lucifer, porteur de lumière, il était celui qui devrait éclairer les autres créatures dans le ciel, qui devrait les diriger. Et il a été éteint comme il a été dit en Ézéchiel jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Son intervention en Genèse 3, nous allons voir son intervention en Genèse 3 dans le jardin d'Éden. Nous lisons en Genèse 3, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangez point et vous ne touchez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ce serpent qui a tenté nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'est cet ange qui a pris la forme du serpent pour venir séduire nos premiers parents et leur faire tomber dans le mal. Et comme Adam et Ève avaient été placés pour dominer la création, pour l'assujettir, eh bien, en faisant alliance avec le serpent, ils ont cédé leur domination au serpent, ils ont cédé leur domination aux anges déchus. Le règne de ces anges est actuellement dans le monde dès le début de la création. Et nous allons lire avec vous dans Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Notez bien qu'il dit celui qui séduit toute la terre. Son règne est actuellement dans le monde et toute la création est sous sa domination. Nous allons faire une pause musicale, nous vous reviendrons bientôt dans notre sujet. N'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier avec vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vous reviendrons après notre pause musicale.
Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à l'homme et non au monde? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse maintenant. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici.
Chers amis, nous sommes de retour et nous allons continuer avec vous dans notre émission. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Notez bien que si le règne du malin, le règne du diable est actuellement dans le monde, ce règne ne restera pas éternellement. Il y aura une fin, il y aura une fin et aussi le jugement de ses anges. Nous allons voir dans Apocalypse 20, verset 8 au verset 10. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la face de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et où sont la bête et le faux prophète, et seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Notez bien aussi qu'il y aura un jugement, le jugement de tous ceux qui feront alliance avec le diable et qui ne se sont pas détournés de leur voie. Dans Apocalypse 20, verset 11, à continuer, nous allons voir, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessous, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », nous voulons vous expliquer que l'homme a été perdu dans le jardin d'Éden. Nous allons voir dans Genèse 2, verset 17, la loi de Dieu concernant l'infraction que nos premiers parents ont fait en Éden. La loi de Dieu dans Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La sentence qui était réservée à Adam et à ses enfants, c'était la mort. Pas seulement la mort physique, mais aussi la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu éternellement. Après Adam, nulle autre personne ne connaissait pas le vrai Dieu. La porte du paradis était fermée. Nous allons voir en Genèse 3, verset 22. L'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève, nos premiers parents, ont été chassés du paradis. Ils ont été bannis de la maison de Dieu. Et ils ont laissé aussi cet héritage pour ses enfants. Et nous étions perdus, nous allions directement vers la mort éternelle. La destination de l'homme, la mort, nous disons pas seulement une mort temporelle, mais aussi une mort éternelle. Les hommes étaient perdus à jamais. Dieu nous a envoyé un guide. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour nous ramener sur le chemin du paradis, pour nous ramener sur le chemin de la vie éternelle. Dans Ésaïe 9, verset 5 à continuer, nous lisons, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Dieu nous a ouvert encore la porte du paradis, la porte du royaume à travers Jésus-Christ. Il nous donne la chance de le connaître. Il nous donne la chance de nous réconcilier avec lui. Dieu est la vérité, le vrai Dieu, celui qui a été, celui qui est et qui a tout créé, l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, verset 13 nous explique. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Fils de Dieu aussi, c'est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a tout créé. C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Les faux dieux ne peuvent pas avoir ces trois attributs, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Nous allons lire pour vous dans le psaume 135, verset 15 à continuer. Psaume 135, verset 15 à continuer. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont les yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ce qui les fabrique. Tout ce qui se confie en elles, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. L'homme, en l'occurrence, toutes les nations ont fait alliance avec ces anges déchus. Toutes les nations ont fait alliance avec le diable. Mais Dieu veut nous donner la chance en Jésus-Christ. Il veut nous ramener au bercail. Dieu a ouvert le chemin et nul autre ne pouvait le faire. Il n'y a aucun autre accès au ciel sinon que Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a aucun autre guide. Et Christ est Dieu dans toute sa plénitude. Nous allons lire dans Hébreux 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Toi encore, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous avons vu l'existence du Fils de Dieu dans le verset 10, Hébreux verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Nous avons vu son œuvre. Les cieux sont l'ouvrage de ses mains. À la croix, il a fait notre rédemption. À la croix, il a aussi racheté. Il a aussi racheté tous les hommes. Il a fait aussi la restitution du cosmos. Il a régénéré l'homme. Et à la croix aussi, il a détruit la mort. La mort qui nous tenait en esclavage, la mort qui a fait peur tout le monde. Et tous les hommes étaient dans la crainte du diable à cause de la mort. Mais le Fils de Dieu a vaincu la mort. Il a eu la victoire quand il est ressuscité le dimanche Pâques, quand il est ressuscité au troisième jour. Jésus-Christ, cher ami, non seulement a vaincu la mort, il vous a ouvert la porte du paradis, il vous a donné accès au trône de Dieu. Et il a dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de son œuvre, mais il use de patience envers nous, afin que nul ne périsse, mais que tous soient sauvés et que tous aient la vie éternelle. Pendant qu'il en est temps, il faut en profiter. Entrer dans la porte étroite, passer par le chemin étroit, et rentrer au bercail. Car il y a aussi le jugement de Dieu, nous l'avons vu, mais il y a aussi la destruction de toutes les œuvres d'iniquité, de toutes les œuvres du mal. Satan et ceux qui ont fait alliance avec lui. Dans 2 Pierre 3, verset 10, nous allons lire. 2 Pierre 3, nous allons commencer plutôt par le verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Le Fils de Dieu détruira la création et les œuvres d'iniquité et il offrira de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous allons lire pour vous dans Apocalypse 21, la restauration du cosmos, la restauration de la création. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons vous faire comprendre, chers frères et sœurs, de même que le mal est entré dans le monde, l'iniquité est entrée dans le monde, avec les anges déchus, avec les démons. Ainsi aussi, il y aura la fin de cette création, la fin du règne de l'iniquité, la fin du règne du diable. Et c'est pourquoi, pendant qu'il en est temps, c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre les œuvres de Dieu, afin de pouvoir venir à lui, afin de pouvoir venir à la repentance, afin de pouvoir chercher la présence de Dieu pendant qu'il en est temps. Et Jésus-Christ est le chemin. Il est celui que Dieu nous a envoyé, le Messie, l'envoyé de Dieu pour ramener les enfants au bercail, pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener sur le chemin de la vérité et que nous puissions avoir la vie éternelle. N'oublie pas que, comme nous t'avions expliqué, nous étions destinés à la mort, pas seulement la mort physique, mais aussi la mort temporelle, mais aussi la mort éternelle. Jésus-Christ a ouvert le chemin, il a vaincu la mort temporelle sur la croix, en ressuscitant le troisième jour, le dimanche de Pâques, et il a vaincu aussi la mort éternelle, car il a ouvert la porte du paradis, il a ouvert la porte du ciel à tous les hommes, à tous les hommes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne connaîtra Dieu autrement que par lui. Nul n'ira au ciel autrement que par lui. Nul n'aura la vie éternelle que par Jésus-Christ, que par lui et lui seul. Jean 17, verset 3, nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie, encore nous disons, le guide, l'éclaireur. À travers les sentiers des ténèbres, Jésus est là pour nous guider dans le chemin de la lumière, pour nous faire sortir des chemins ténébreux, des routes obscures. Il est la lumière du monde, la vérité et la vie. À toi de choisir ou de rejeter avec les bénédictions et les conséquences. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux m'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son bonheur fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris, heureux en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. L'automne est un nouveau printemps.
Chers amis, c'est ici que se termine notre sujet pour aujourd'hui. Nous allons prier avec vous. Et nous espérons que la prochaine fois, nous vous retrouverons dans notre émission La Voix de celui qui crie dans le désert, chaque dimanche à 3h de l'après-midi. Merci.
Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions aujourd'hui. Lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Lui qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour toi, notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné l'intelligence, la sagesse. Merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit afin de pouvoir comprendre les choses éternelles, afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, la paix dont nous avons besoin dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de turbulences. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous sur la croix afin de nous racheter. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la lumière. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans la vérité. Car tu as dit la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de ton Fils, nous t'en prions, c'est lui qui vient et qui est au siècle des siècles. Amen. À la semaine prochaine pour notre émission. Chaque mardi, 7h pour 8h. On vous attend. Je vous adore. Merci, chers auditeurs.